Raymond, ouvrier, toute ma vie j'ai été habité par ces valeurs. Propos recueillis par Monique Pussat-Marsac, étude du Hall-Ruelland. Mécano chez Panhard puis Citroën, syndicaliste CGT, militant communiste, Raymond Dupont a aujourd'hui 80 ans. À l'écouter, on saisit combien la liberté, l'égalité, la fraternité l'ont porté et le portent toujours. Liberté, égalité, fraternité, oui, ça a toujours du sens. Et ça en a eu pour moi toute ma vie durant. J'ai toujours été habitée par ces valeurs, même quand j'étais cadre, et peut-être encore plus car ma position me permettait d'être en phase avec mes convictions, occasion de rapports humains plus affichés. On m'a toujours considérée comme un homme de gauche, défendant la liberté, l'égalité, la fraternité. Je voulais cela absolument, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est d'abord la liberté de pouvoir dire, s'exprimer, repousser les contraintes, avoir droit à l'égalité de traitement. Les individus sur Terre sont différents, et contrairement à une idée répandue aujourd'hui, nous devons accepter le principe universel des races, au sens le plus noble et respectueux, visant à nier la supposée infériorité de certaines d'entre elles. En France, c'est haro sur l'arabe, le musulman. La couleur de peau, les faciès et bien d'autres signes qui pourtant doivent rester des lieux forts d'identité. Il faut que chacun garde la sienne, c'est aussi cela la liberté. Ça fait des années que j'entends les politiques dire « il faut aller près des gens ». Mais j'ai l'impression que nos politiques ne savent pas où sont les gens en question. Ils ne savent pas ce que sont les gens, comment ils vivent, comment ils parlent, quelle allure ils ont. Doit-on en avoir peur? Ils ne les rencontrent pas, ne savent pas vraiment où ils se trouvent. Mais plus que les hommes et les femmes politiques, c'est l'appareil politique qui doit être sur le terrain, les militants, les sections, et pas qu'à l'heure des élections. Tant que l'on gouvernera d'en haut, on ira dans le mur. Arrêtons de prendre les gens pour des veaux. C'est aussi la liberté de se syndiquer au sein d'une entreprise. C'est quelque chose qui disparaît avec des conditions de travail qui se dégradent, les pressions de l'extérieur via les médias. Ils emmerdent le brave monde avec leurs grèves à répétition. C'est honteux. Il y aurait besoin de la présence d'un syndicat dans bon nombre d'entreprises. Il se dit qu'il faudrait qu'il soit réformateur pour que la société évolue. Oui, mais pour qui? C'est sûrement une des conditions pour accéder à l'égalité dont on nous rebat les oreilles et qui avance à petits pas. Du coup, la liberté appartient à quelqu'un d'autre, celui qui a les moyens, celui qui dirige, a le pognon, le possédant. On a supprimé le concept de lutte des classes. Quelle énorme connerie! Pourtant, elles existent bien toujours, de plus en plus. On a même inventé la caste des pauvres, comme en Inde. De son temps, un certain Georges Marchais annonçait lors d'une émission TV que notre pays comptait de nombreux pauvres, qu'il ne fallait pas se cacher les mots. En avoir peur comme une chose misérable et honteuse. Gagné, ils sont 8 millions sous le seuil de pauvreté. C'est l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les races, même s'il ne faut plus employer ce mot, je pense que les races existent toujours, les faire disparaître est la négation d'une vérité. Un homme dit de couleur valant autant qu'un homme de couleur blanche, jaune, ils sont faits des mêmes éléments physiques et chimiques. Il faut intégrer les gens différents dans une nation au cours d'un lent processus, certes, mais on se doit de le faire. Cela s'est fait de tout temps. Je pense qu'il y a des pays où on sait le faire, mais chez nous, on ne sait pas parce qu'on ne le veut pas. La peur de l'autre, avec des distinguos toutefois, car il semblerait qu'il puisse y avoir des intégrables et d'autres pas. On a souvent peur de l'autre dès lors qu'il se trouve être différent. Nous sommes, j'en reste convaincu, une nation raciste, xénophobe pour une partie de la population. Les 30 à 40% de celles et ceux rangés à l'heure des consultations derrière vous savez, derrière qui vous savez, mais pas seulement à cette adresse. Le FN, bien sûr, et ces gens-là adhèrent à un courant de pensée, n'en déplaise à certains qui se cachent derrière leurs petits doigts. Ils se réveilleront encore une fois de plus trop tard, lorsque le mal sera installé. Certains n'ont-ils pas peur? Aime-t-on sincèrement notre voisin ou parfois celui qui vit ailleurs, là où ils ont été regroupés en communautés dites d'origine ou celui dont les origines sont maghrébines, algériennes en particulier, arabes en général. Nous avons des progrès immenses à faire sur nous-mêmes. L'égalité, 68, c'était un virage. Plus loin que les conquêtes autour des accords de Grenelle, on a cru à l'égalité entre les femmes et les hommes. Foutaise, même si l'on a fait des progrès. Les femmes ont libéré leur corps, acquis des droits fondamentaux, certes, mais elles sont trop souvent montrées aujourd'hui comme des produits de consommation, des icônes sexuelles mises en scène par certaines publicités que la censure officielle tolère, ne veut pas voir. La société s'est égarée. Il faut que cela cesse. Il faut que chacun dans la société ait sa place. L'utilisation du « tu » et du « vous » y contribue. C'est le respect de l'autre, montrer ce qui le différencie. Un « tu » n'a rien de commun avec un « vous ». On se tutoie et ça nivelle. C'est de plus en plus difficile de l'exercer, la fraternité, quand on voit les événements qui se passent, les actes terroristes. La cassure s'est faite avec Giscard. Depuis, ça dégénère partout. On ne comprend plus ce qui se passe dans notre société. On réalise que l'on est submergé. Même avec les idées que je véhicule dans ma tête, je sais que je ne pourrai plus vivre là où j'étais avant, en région parisienne. J'accepterai difficilement la proximité de ces nouvelles populations arrivées avec des langues et des traditions tellement différentes des nôtres. J'aurai le sentiment d'étouffer. C'est trop et trop vite pour assimiler mentalement. Je ne comprends plus mon pays, ce qu'il est devenu, brutalement, en 30 années. Vu de la campagne, la chose peut effrayer encore plus. Les médias nous y aident avec plaisir. La France va accueillir quelques migrants, réfugiés fuyant les guerres. 30 000 sur 3 ans. C'est nul, ridicule, j'ai tellement honte. On les laisse mourir par milliers en Méditerranée, en mer Égée ou ailleurs. Je suis hantée par le souvenir de ce petit, Elan Kurdi, enfant de 3 ans, noyé, face plantée à demi dans le sable et l'eau de mer au bord d'une plage anonyme. Qui s'en souvient encore? Avec quelle émotion? J'ai sa photo dans mon ordi sur la porte du frigo. Pourquoi l'Allemagne arrive-t-elle à trouver des moyens pour accueillir et nous pas? Ce qui me rassure, ce sont les jeunes générations qui arrivent, car elles se retrouvent vite ensemble sur les mêmes bancs d'école, de lycée, de fac, d'université. C'est leur société, le monde qui est le leur, ils ne connaissent que cela. Je suis rassurée pour eux, encore faut-il que la République et ses attributs, démocratie, droit de culte, laïcité, égalité des chances, des sexes, des races, sachent se faire entendre et respecter. Autrefois, on chantait l'international. Elle nous unissait, nous réunissait, nous menait vers des victoires. À présent, on braille la Marseillaise à tout va, pour tout et n'importe quoi, par n'importe qui, comme sous Pétain. Il y avait dans fraternité le sentiment d'une cohésion, sentiment d'appartenir à un monde commun. Le chacun pour soi, l'individualisme nous éloigne de la fraternité. Dès 1971, le patronat s'est mis à attaquer, un par un, chacun des droits acquis en 1968, avec le concours d'ailleurs des syndicats réformistes. Tout n'a pas été perdu, mais le maintien de nos droits acquis, ce n'est pas gagné. La loi travail passant par là. Les vieux, on ne sera plus là pour voir la suite, alors, advienne que pourra, l'avenir leur appartient. Raymond Dupont est né en 1937, à Chartres, en Eure-et-Loire. Il vit la guerre, les bombardements et les privations, terrorisé comme tous les mômes. À 4 reprises, la famille déménage et son père disparaît, engagé dans un réseau de résistance. Un père, dit Raymond, que l'on n'a jamais vraiment eu. Nous nous parlions peu. En 1950, la famille s'installe à Paris. 7 ans plus tard, Raymond a 20 ans, il rencontre Nicole, qui deviendra sa femme, juste avant d'être appelé sous les drapeaux. Dans la famille, on est de gauche, à gauche toutes, et on se souvient du Front populaire. Nicole travaille dans les assurances, est membre des jeunesses communistes et milite au sein du mouvement des femmes françaises. Raymond s'engage au Parti communiste, au sein de la cellule Fanny de Werp, du nom de cette jeune femme de 31 ans, assassinée en 1962 par les CRS aux ordres de Papon. En septembre 1957, Raymond est appelé sous les drapeaux, dans le 57-2A, camp de Mortemais à Versailles. Le temps des classes, puis départ pour l'Algérie. Quelque temps après, il contracte une maladie et doit être rapatrié. Je suis muté à Aulnay-sous-Auneau, en Eure-et-Loir, à l'ERGMAU, à l'atelier de mécanique pour l'entretien de matériel du génie, mon métier de prédilection. En janvier 61, après 28 mois, 8 jours et 17 heures, il est libéré et entre aux ateliers d'usinage de l'entreprise Panhard-Levassor, à l'atelier de pignonnerie de boîte de vitesse de la PL17, de la 24 et de la 3 chevaux ou encore des éléments du moteur de la 2 chevaux Citroën. Il intègre le PC, milite à la CGT et ne tarde pas à être élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise. Avec Nicole, il s'est installé dans le 10e arrondissement de Paris. Naissent leurs deux enfants. On vit à l'étroit. Les enfants doivent monter et démonter leur lit tous les matins pour dresser la table. Mais c'est ainsi. Ce n'est pas tout, tout de suite. Raymond ne se souvient plus très bien pourquoi il devient militant. Peut-être le climat social de l'époque, les injustices partout et dans le monde du travail en particulier avec des semaines de 54 à 70 heures, parfois les deux fois 11, les conditions sanitaires et conditions de travail. Siégeant au comité du parti, Raymond devient le correspondant du journal de l'entreprise, le Pampan, un beau quatre pages. Il crée aussi un journal syndical d'ateliers relatant des faits de la vie des ateliers. Sur Goussainville, il est au comité de défense de l'Humanité et assure la vente de la presse du parti chaque dimanche. L'Humanité Dimanche, France Nouvelle, l'Avant-Garde, le journal du Valdo. Dans l'entreprise, il anime la section « Moi, main-d'œuvre immigrée », constituée majoritairement d'anciens républicains espagnols. Cette époque est passionnante. Entre nous, les liens sont chaleureux, puissants et généreux. Ils ont tant à nous dire de ce que furent leurs combats pour la liberté tant convoitée. Au sein de la section, il y a aussi les travailleurs algériens déboussolés, pris entre les feux du MNA et de la LN, qui veillent. Ils restent effacés, se souvient Raymond, mais respectent nos combats. Nous avons des relations fraternelles et nous nous comprenons mutuellement. Bon nombre d'entre eux disparaissent lors des soulèvements et mouvements de répression de la police de Papon. 200 victimes jetées dans la Seine, les mains ligotées dans le dos. Il reste dans ma mémoire comme Bilal, mon ami, que je pleure parfois, même si je ne me souviens plus très bien de son visage. Tout au long de son engagement syndical, Raymond croise les grands dirigeants charismatiques comme Georges Marchais, Benoît Frachon de la CEGET, Edmond Maire de la CFDT. En 1965, l'usine Panhard est absorbée par Citroën et Raymond perd sa qualification professionnelle. Grâce à une formation, il devient agent de maîtrise. Mai 68, les étudiants de la fac de Justieu sont dans la rue. Ils viennent vers nous pensant pouvoir nous donner des notions sur les façons de combattre le grand capital. Mais nous n'avions pas besoin d'eux. Nous occupions déjà nos usines aux premières heures du jour où tout se déclencha, la grève générale, dans la foulée de Simca Poissy, du bateau de l'île Seguin pour Renault, après la SNCASO de Sud Aviation et de Nantes la veille. Une à une, les usines vont fermer. Les ouvriers subissent alors licenciements massifs et délocalisations programmées. En 1987, Raymond est muté à Rennes pour travailler, à La Jeannette, comme agent de maîtrise de niveau 2 puis cadre. Au moins, à La Jeannette, j'ai vu des voitures entières se fabriquer. Moi qui, toute ma vie, n'en avais fait que des bouts. Le monde change. Place à la création et à l'intelligence. Dégagez, on n'a plus besoin de vous. Le patron, c'est Auguste Génovèse. Avec lui, on avance. On ne tourne pas autour de Pau pour regarder les sommets et ne jamais se retourner, semble-t-il dire à ses cadres avec lesquels les relations sont cordiales mais énergiques. Avec sa femme, Raymond s'installe d'abord à Rennes, puis à Guipry, et enfin dans une petite maison à Pipriac. En 1994, sonne l'heure de la retraite. Aujourd'hui, j'ai l'impression que seules les têtes pensantes semblent savoir où elles vont. Et encore, ce n'est pas certain. Plus de PC, je me sens orphelin. J'ai des copains, mais ce ne sont plus vraiment des camarades au sens militant. En s'ultra-libéralisant, la société oublie qu'il existe toujours des prolos, des employés, des paysans, un monde du travail qui n'a plus que ses yeux pour pleurer. J'ai l'impression que nous, les militants, ne sommes plus que des distributeurs de flyers. Il n'y a aucune chance, je crois, que la gauche ne forme jamais un front uni. Ce qui a été détruit l'a été durablement, irrémédiablement, à cause des manipulations des membres du Parti socialiste de l'ère mitterrandienne. Le Parti communiste aussi a beaucoup évolué, intégrant surtout des intellectuels. Nous sommes des gens du terrain. Pourtant, je crois qu'il faut continuer à se battre contre les grands monopoles, les holdings financières, ces patrons qui ne défendent que leurs propres intérêts et rien d'autre. La notion de possédant et de possédé reste plus que jamais d'actualité. Pendant des générations, on s'est battu au nom de la lutte des classes. Serait-elle aujourd'hui un concept dépassé, une chose morte? Non, 100 fois non. L'avoir sorti du vocable est une trahison. Nicole décède le 27 février 2013. Elle me laisse seule au milieu de rien. J'apprends à vivre sans elle, mais c'est dur. J'essaye de faire en sorte que la maison soit aussi belle et bien tenue. Quand le temps le permet, l'envie, je vais me balader. J'ai la pleine campagne à portée de pied. Ça me permet de lui parler, de hurler pour me libérer. Je suis seule, désespérément. Je perds les amis. Les vieux n'intéressent personne, sauf pour les impôts. Je reste toujours engagée, même si par moments la politique ne me convient plus. Mais si tout le monde s'en va.